présence dans la Haute Ariège 92.7.
Voilà, après ce moment de recueillement, le Regina Celi, quel bonheur de se retrouver en ce début de semaine pour retrouver donc l'émission Présence Midi. On va laisser David se préparer, voilà, mettre le casque sur... Le casque sur les oreilles, voilà, il a le casque sur les oreilles, il entend. Bonjour David.
Voilà, bonjour à tous. En fait, c'est une préparation hein, quand même d'être là à l'heure à midi, faut pas louper le rendez-vous.
Vous êtes là depuis un petit moment. On va parler avec vous, mon cher David Torchala, d'une nouvelle qui a fait la une de la presse. Ça serait peut-être la probable venue du Saint-Père, du pape Léon XIV à Lourdes. Et on a même à peu près la date, fin septembre. Alors, vous nous direz si vous avez des nouvelles.
Oui, mais c'est encore beaucoup de conditionnels.
Hein. D'accord. Très bien. Mais écoutez, on le retrouve juste après. Et puis après, on aura un amoureux de Lourdes. Nous recevrons Monseigneur Jean-Yves Rioux, l'évêque émérite de Pontoise et de la Guadeloupe. Il est fidèle parmi les fidèles à Lourdes. Il viendra nous partager ce que représente pour lui la cité mariale. Et puis, il y aura un prêtre qui est handicapé. Et Mathias Terrier, eh bien, pour deux passages à Lourdes, cette fois-ci, ce n'était pas dans nos studios, nous sommes allés à l'OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées, à enregistrer son témoignage. Aussi, c'est important pour Lourdes. Vous entendrez un témoignage bouleversant tout à l'heure dans l'émission. Donc, deux passages à Lourdes. Avant de vous retrouver, David, pour parler de l'actualité du sanctuaire, parce qu'on ne parlera pas que de la venue du Saint-Père, on écoute l'information, l'essentiel de l'information de ce lundi.
Un château du 19e siècle classé monument historique transformé en logement à Sainte-Claire-de-Rivière, prévu pour 2029. Fibre Excellence à Saint-Gaudens, l'État accepte de payer l'électricité plus cher pour sauver l'usine. Dans le Lot, Échangeo, une application mobile brise la solitude des campagnes en connectant voisins et artisans pour des coups de main gratuits. 9 nouveaux lieux de vie partagés pour 118 seniors et personnes en situation de handicap vont voir le jour d'ici 2033 en Haute-Garonne. Dans le Tarn, une boucherie fermée immédiatement par la préfecture pour risque majeur sanitaire. Et enfin, à Toulouse, le musée des abattoirs lance une grande collecte de mémoires pour retracer l'histoire du bâtiment. Les Toulousains sont invités à partager leurs souvenirs.
Merci beaucoup. Voilà pour l'essentiel de l'information. On retrouvera le flash à 12h30 et il était aujourd'hui présenté par Jenny Lee Chib de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. Merci à tous ces étudiants qui nous font le flash chaque jour sur Radio Présence. C'est un très bel exercice pour eux. Mais tout de suite, on va retrouver David Torchala pour l'actualité du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes.
Radio Présence dans la Cité Mariale 96.
Alors, mon cher David, l'actualité du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, on va de suite parler de la venue du Saint-Père à Lourdes. Alors, voilà, beaucoup d'articles ont été faits sur la presse nationale et même locale. Est-ce que vous avez des informations à nous donner ?
Mais écoutez, merci de me donner l'occasion de pouvoir nous exprimer pour le sanctuaire, parce que à ce stade, aucune confirmation officielle n'a été donnée par le Saint-Siège concernant une éventuelle visite du pape Léon XIV en France et à Lourdes. Et en septembre prochain, évidemment, nous avons tous lu le Figaro qui a donné cette information. Vraiment, au moment où le président de la République, Emmanuel Macron, a pu rencontrer le Saint-Père, et il faut dire que le père Michel Dauban, le recteur du sanctuaire, était aux côtés du président au sein de la
délégation.
De la délégation, merci, officielle. Mais en tout cas, cette présence, même si on peut dire qu'elle constitue un signe d'attention, un signe d'estime, bon, elle ne vaut en aucun cas annonce ou validation d'un déplacement. C'est vrai qu'une visite papale, ça répond à un processus qui est extrêmement précis. Elle suppose déjà cette invitation officielle qui est portée par l'évêque de Tarbes-et-Lourdes, Monseigneur Jean-Marc Mika. Alors, il est bon aussi de rappeler que le 1er juillet 2025, vraiment quelques jours après la nomination du pape Léon XIV, Monseigneur Jean-Marc Mika, l'évêque de Tarbes-et-Lourdes, accompagné du père Michel Dauban, le recteur du sanctuaire, ont pu lui remettre une invitation main à la main, avec un long temps qui leur a été accordé pour rencontrer le Saint-Père et évidemment parler de Lourdes et de sa mission. Et puis, dans ce processus, évidemment, cette invitation est également portée par le président de la Conférence des évêques de France, le cardinal Aveline. Alors voilà, on en est là des informations. Le sanctuaire, évidemment, se tient naturellement disponible et puis prêt à accueillir le Saint-Père. Ça serait une joie tellement immense si voilà, elle venait à être confirmée. Et puis, parce que c'est vrai qu'accueillir le pape, c'est aussi recevoir un soutien spirituel précieux, hein, et d'encouragement, en tout cas, pour tous les acteurs du pèlerinage, pas seulement les personnes du sanctuaire et de Lourdes, mais bien au-delà, tous les organisateurs de pèlerinage, les hospitaliers qui se mettent au service des personnes fragiles, malades, voilà, d'aller les chercher directement chez elles pour qu'elles puissent venir vivre un pèlerinage directement au creux du rocher, au lieu de l'apparition. Donc voilà,
vous me tiendrez informé si, oui, bien sûr, une date venait à venir.
Vous savez, nous serions informés de manière très officielle, hein, oui, par le Saint-Siège, donc par une communication de la salle de presse du Vatican. Voilà, donc bon. il faut suivre.
Voilà, il faut
voilà l'actualité du jour.
Il faut veiller le facteur et les mails. Alors David, on va revenir aussi, puisque la semaine dernière c'était lundi de Pâques, c'était férié. Deux mots sur la Pâques à Lourdes et au sanctuaire. Il y avait un monde de fous.
Oui, c'est vrai. Magnifique fréquentation pour cette semaine sainte à Lourdes. Je crois aussi que la météo des derniers jours y a fait pour beaucoup, mais pas seulement. C'est une vraie Lourdes est aussi un lieu de ferveur à l'occasion de cette semaine sainte. Il faut dire que les offices qui ont été proposés et vécus ont été d'une immense qualité. Voilà, vraiment, on le doit à notre communauté des chapelains qui met vraiment tout son cœur dans la préparation, dans la liturgie de chacun de ces offices qu'on a toujours plaisir à redécouvrir parce qu'on les vit une fois dans l'année. Et puis, alors, enfin, je parle pour moi, mais moi j'oublie toujours des choses, et donc je suis toujours émerveillé de redécouvrir sans cesse le jeudi saint. Qu'est-ce que c'est beau, enfin voilà. Et puis aussi d'avoir cette animation vraiment. Nous avons un duo là extraordinaire avec Isaïa Ravelli qui est le maître de chapelle du sanctuaire qui a beaucoup de génie, et puis voilà, Maria Gatchevalier aussi, cette soprane qui vient renforcer les rangs du service liturgie pendant la saison des pèlerinages, et donc c'est vrai que ça nous porte beaucoup. Donc effectivement, vous avez raison Philippe, beaucoup de pèlerins étaient présents pour cette semaine sainte, avec notamment une nouveauté cette année, c'était le vendredi soir, vendredi saint, avec un chemin de croix sur l'esplanade. Le choix avait été de célébrer l'office de la Passion à 15h, hein, comme il nous est dit dans la Bible, l'heure de la mort du Christ, qui habituellement se vivait le soir. Donc l'idée était d'inverser les façons de faire. C'est toujours bon parfois aussi d'inverser les façons de faire, et donc de proposer un chemin de croix au flambeau sur l'esplanade. Ça, c'est une des images les plus saisissantes, en tout cas je crois, de cette semaine sainte à Lourdes.
Et puis on a été gâtés, hein, puisque en parallèle de Pâques, il y avait le pèlerinage chez Piti, et on a eu le grand plaisir d'avoir un feu d'artifice absolument magnifique offert par ce pèlerinage pour fêter leurs 70 ans.
Ça, je crois que ça a surpris tous les habitants de Lourdes. Tout le monde a regardé le calendrier. Nous ne sommes pas le 14 juillet. Eh ben oui, c'était lundi dernier. Le pèlerinage HCPT, c'est Hosanna House Children Pilgrimage Trust. Voilà, donc un pèlerinage anglo-saxon qui accueille beaucoup d'enfants malades, atteints de handicap. Cap, voilà, qui viennent d'Angleterre, d'Irlande, mais aussi de beaucoup de pays de francophones. Il y avait même des pèlerins de Jamaïque. Et donc, c'est un pèlerinage qui est extrêmement coloré, puisque le but étant d'entourer par un petit groupe chaque enfant malade. Voilà, donc un groupe qui arbore très fièrement soit son numéro de groupe, soit ses couleurs, avec des pins sur les casquettes, des peluches, des lunettes, des perruques, etc. C'est extrêmement joyeux et pour autant très, très recueilli. Et donc cette année, c'est une institution, hein, ce pèlerinage HCPT a fêté donc ses 70 ans, et donc a fait profiter toute la cité mariale des joies de la fête en tirant un feu d'artifice magnifique. Peut-être, moi j'aimerais dire qu'il est même plus beau que celui du 14 juillet, mais ça ne regarde que moi, et vraiment ça a surpris chacun. Mais voilà, comment terminer, oui, un beau lundi de Pâques en couleur, quoi.
En couleur, et puis fêter aussi donc ses 70 ans, ce bel anniversaire par un feu d'artifice et par un, je vous revendique, un très beau bouquet final qui en a surpris plus d'un, effectivement. Et puis, on termine ce petit entretien rapidement pour parler, pour revenir quand même sur l'émission de Stéphane Bern.
Oui, secret d'histoire sur Bernadette Soubirous. Vraiment, quel cadeau nous a fait France Télévisions. C'était mercredi dernier. C'est passé sur France 3, mais c'est encore disponible pendant plus d'un mois, je crois, sur le site francetelevisions.fr, où on peut revoir. C'est 1h50 d'émission d'une extrême qualité, d'une extrême fiabilité sur l'histoire. C'est vrai que on sait la précision et le goût qu'a Stéphane Bern sur le patrimoine, sur les recherches, mais là on a pu le vérifier parce qu'on a accompagné le tournage qui s'est achevé l'année dernière, au moment même où le pape François décédait. On avait Stéphane Bern qui était dans les murs du sanctuaire, donc c'était un bon moyen mémotechnique de se rappeler la date, en tout cas de cet avril 2025. C'était pour terminer le tournage qui avait déjà démarré avant, avec beaucoup de recherches historiques, patrimoniales, avec beaucoup de liens avec Nicolas Dargegène, qui est le responsable des archives du sanctuaire de Lourdes. On a pu voir aussi son homologue à Nevers, c'est la sœur Elisabeth de Tonquedec, sœur de la charité de Nevers, qui aussi s'emploie à être archiviste du couvent Saint-Gilles d'Ars. C'était très beau de découvrir ça, j'avais jamais vu moi. Et donc j'étais très ému de voir en tout cas les pièces d'archives, de voir dans ce documentaire les cahiers d'écriture, de tables de multiplication de
Elle écrivait bien. Elle écrivait
oui,
bien.
Ouais. Et donc c'est bien. Donc les sœurs ont beaucoup de ces pièces et faits personnels de Bernadette, et donc ont volontiers joué le jeu de la caméra pour montrer en tout cas tous ces trésors. Et puis on a eu la joie aussi de voir Monseigneur Jacques Perrier, qui est l'ancien évêque de Tarbes-et-Lourdes, qui a amené bon nombre de ces journalistes dans les rues de Lourdes pour leur faire découvrir l'histoire. C'était un fin connaisseur. La joie aussi d'avoir Cello Ferral, qui fait partie de notre équipe au sanctuaire et qui est une guide formidable. Et puis aussi toute une série de biographes, d'écrivains, d'historiens qui évoquent Lourdes. Et donc, comme connaisseurs de Lourdes que nous sommes, on peut le dire, il n'y avait aucune erreur. Quelques raccourcis, oui, ça c'est vrai, mais en même temps, il faut bien s'adapter au format de la télé. Mais en tout cas, une très grande précision. Et puis, il y a toutes ces scènes de reconstitution historique qui ont été faites, puisque en fait, la production détient un château où tous les tournages pour tous les secrets d'histoire se font là, donc avec des comédiens, etc. C'est vraiment beau à voir et c'est encore possible. Donc, s'il faut aller sur francetelevisions.fr, il faut créer un compte, on l'a tous fait, nous, donc c'est gratuit, c'est facile à faire, et on peut revoir le secret
replay,
d'histoire.
Comme on dit.
En replay. Exactement.
Moi, j'ai noté que vous saviez très bien parler anglais avec ChatGPT.
ChatGPT, oui. Et... ce que vous voulez. Alors, écoutez, c'est lourd, c'est international, là, c'est comme ça.
Et puis, en parlant des comédiens qui ont tourné dans Secret d'histoire pour illustrer cette émission, je voudrais avoir une pensée quand même pour Jean Sagols, qui nous a quittés, qui est décédé, et qui a été le réalisateur du dernier film qui a été fait sur Bernadette.
Oui, vous avez raison. Je m'appelle Bernadette, ouais. Qui a été réalisé par Jean Sagols. Jean Sagols a beaucoup marqué les téléfilms, oui. En fait, les grandes séries de
Commissaire Navarro, par exemple,
etc. Ouais. Voilà, et qui avait c'était illustré au cinéma pour faire revivre la vie de Bernadette avec tout un film qui n'avait pas pu se tourner au sanctuaire parce que nous avons beaucoup de demandes de tournage, mais le sanctuaire n'est pas un décor de western, c'est-à-dire qu'en fait il n'est jamais vide, il y a toujours des pèlerins, donc on ne fait pas de reconstitution. Mais là, ils avaient été au Portugal, ouais, pour refaire Lourdes.
Le fin quand même, ouais.
C'est assez, oui. Et puis ils avaient même reconstitué la grotte elle-même pour ce tournage. Donc vous avez raison de saluer la mémoire de Jean Sagols.
Voilà, qui nous a quittés il y a quelques jours. Merci beaucoup, David. On a été très bavard. On se retrouve la semaine prochaine.
Promis, je serai là. À bientôt.
Allez, on retrouve un autre amoureux de Lourdes. C'est Monseigneur Jean-Yves Rieucreux.
Ah oui.
Présence à Lannemezan. 92.2.
C'est un ami de la radio que nous recevons aujourd'hui. Bonjour, Monseigneur Jean-Yves Rieucreux.
Bonjour, Philippe. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Présence et d'autres radios.
Et c'est un plaisir de vous accueillir ici à Radio Présence. Vous êtes de passage à Lourdes pour quelques jours. À l'heure où on enregistre cette interview, vous êtes donc à Lourdes, mais vous partez dimanche. Donc, comme le son passera lundi, vous serez déjà parti à l'heure où on enregistre. Mais vous êtes de passage à Lourdes avec le diocèse de Saint-Étienne.
Je réside dans le diocèse de Saint-Étienne depuis 2 ans, après avoir pris ma retraite, si on peut dire, de la Guadeloupe, où j'étais évêque. Et le diocèse de Saint-Étienne a une particularité en cette période, c'est que le siège est vacant. Monseigneur Sylvain Bataille a été nommé par le pape Léon XIV archevêque de Bourges au mois de novembre dernier. Et donc, à Saint-Étienne, comme dans d'autres diocèses, on attend un évêque, mais l'évêque émérite que je suis, en résidence dans le diocèse de Saint-Étienne, j'ai accepté de venir présider le pèlerinage. Nous sommes 750 et de participer à un pèlerinage comme je l'ai fait maintes fois avec le diocèse de Pontoise où j'ai été évêque pendant 9 années, puis avec le diocèse aussi de Guadeloupe. Et c'est toujours une très grande joie de venir ici à Lourdes pour vivre un pèlerinage, et en particulier en cette semaine qui était la semaine dite in albis, c'est-à-dire la semaine en blanc, c'est-à-dire on est avec le souvenir et l'action de grâce des baptisés de Pâques. Alors il y a un lien vraiment entre aussi cette semaine après Pâques, puisque on entend les textes qui nous disent vous êtes mes témoins, les témoins du Christ ressuscité, et nous venons pour être aussi les témoins de ce que nous vivons ici à Lourdes, et que donc je peux le témoigner bien sûr par cette émission et par les questions que vous me posez pour dire que c'est toujours vraiment une grande grâce de venir et de vivre intensément un pèlerinage avec bien sûr la messe internationale le mercredi, l'onction des malades qui a été donnée le jeudi, et puis la messe à la grotte, que nous avons eue ce vendredi.
Alors les gens, si vous ne le connaissez pas, vous avez 80 ans, on le dirait pas. Vous avez toujours une pêche d'enfer, toujours le sourire, et chaque fois que vous venez à Lourdes, vous venez toujours nous dire un petit bonjour. C'est important pour vous la radio?
Mais oui, parce que j'ai fait de la radio depuis mon ordination, c'est-à-dire il y a plus de 50 ans de cela, en Nouvelle-Calédonie, où j'ai été prêtre pendant 12 ans, et puis après je suis venu à Paris pour être prêtre à différents lieux, différentes paroisses, avec les jeunes, l'Institut catholique, curé de Saint-Ferdinand d'Éternes, recteur de Notre-Dame de Paris, et il y a toujours eu cette attention et cette communication, puisque Radio Notre-Dame à Paris, au moment de la création de KTO, il y a 25 ans de cela, et donc, et puis que chaque fois que je venais à Lourdes, et je pense ici aux deux voyages de visite du pape Jean-Paul II en 2004, et puis Benoît XVI en 2008, eh bien je m'associais tout naturellement pour participer justement à la communication sur ces grands événements, et c'est la raison pour laquelle, Philippe, je suis toujours très heureux de venir tout simplement vous saluer en ami, et puis de venir donner quelques nouvelles et quelques informations, et de voir que Lourdes est un lieu unique. On a pu le voir d'ailleurs dans une très belle émission qui est passée mercredi dernier dans le cadre
Stéphane
Bern. C'était magnifique parce que ça présente très bien ce qu'est Lourdes, son message, les malades, puisque c'était le titre de l'émission, c'était même Lourdes et les malades, miracles. Et puis les guérisons qui ont eu lieu dès les apparitions en 1858, et puis depuis plus de 150 ans, ce sanctuaire qui est un sanctuaire unique au monde.
Vous êtes l'évêque émérite de Guadeloupe et de Pontoise. On va bien sûr s'arrêter dans quelques instants sur votre parcours en Calédonie, puis en Guadeloupe, où vous avez remis un peu d'ordre et vous avez reboosté un peu Radio Massamiel. On va d'ailleurs saluer nos collègues de Radio Massamiel.
Nous saluons ainsi tous les auditeurs de Radio Massamiel là-bas en Guadeloupe.
Radio Massamiel ici à Lourdes, c'est quelque chose, c'est quelque chose d'important pour vous.
Eh bien oui, je vais vous expliquer d'ailleurs comment a été fondée cette radio en Guadeloupe dans les années 1980 par un prêtre spiritain, et comme il était dans la paroisse dite de Massabielle, puisqu'il y a une paroisse qui s'appelle Massabielle, où il y a bien sûr la statue de Notre-Dame de Lourdes, eh bien il l'a appelé Radio Massabielle. Alors il est normal qu'il y ait un lien entre Radio Massabielle et donc la grotte de Massabielle, bien sûr, tous les jours, le chapelet diffusé là-bas aux Antilles, comme il est diffusé dans le monde entier. Et donc, quand je suis arrivé comme évêque de de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre, les deux villes, mais c'est le titre de pour l'évêque de Guadeloupe. Basse-Terre, c'est la capitale, et puis Pointe-à-Pitre, c'est aussi capitale économique. Eh bien, tout naturellement, je découvre avec bonheur qu'il y a cette radio. Eh bien, alors, on a développé la radio, permettant ainsi la diffusion et de la parole de Dieu, la prière et les témoignages et c'est une radio qui est très, très écoutée, on va dire, comme toutes les radios chrétiennes en France.
Ça représente quoi pour vous, monsieur Lourdes?
À Lourdes, j'y suis venu, j'aime à évoquer ce premier souvenir. J'étais enfant, j'avais 12 ans, c'était en 1958, avec mes parents et puis mes frères et sœurs, nous sommes venus ici à Lourdes. Alors, l'enfant que j'étais, il comprenait peut-être pas toute l'importance, on était impressionnés par le cadre. J'ai vécu cela, puis après je suis revenu comme jeune, à 20 ans, et ensuite, en étant en Nouvelle-Calédonie, bien, je venais plus rarement, on va dire. Mais après, comme évêque de Pontoise pendant 9 années, comme évêque de Guadeloupe, on vient chaque année, nous les évêques, à Lourdes. Et c'est toujours un très beau moment, parce que c'est un moment très intense de prière, de travail en commun, et nous sommes en face de la grotte. Alors, Lourdes, c'est un lieu où on aime à venir, parce que on sait ce qui s'est passé en 1858, et on a vécu les grands événements que j'ai évoqués, c'est-à-dire la visite de Jean-Paul II, de la visite de Benoît XVI, et on espère, je suis sûr qu'il viendra, le pape Léon, le pape François lui-même voulait venir. Eh ben, il n'a pas pu réaliser son souhait pour différentes circonstances, mais ce lieu est unique parce que la prière, on va dire en permanence, la prière, et puis les malades, c'est aussi la grâce de Lourdes pour les malades, lors de la messe dans la basilique Saint-Pédis avec les malades et les hospitaliers. Et j'ai donné le sacrement des malades avec les prêtres présents. Et on voit comment ils sont, on est heureux d'être ensemble. Et en pensant, bien sûr, à Bernadette, qui elle-même a été malade. J'aime à dire d'ailleurs aussi que Bernadette, comme vous le savez, eh bien, elle a reçu 4 fois le sacrement de l'onction des malades. Parce qu'elle était toujours malade. Donc, elle est morte à 35 ans, à 9 heures après ses années comme religieuse dans le couvent de Saint-Gildard à Nevers. Et puis elle a été plusieurs fois, on va dire, aux abois de la mort, on lui a donné l'onction des malades. Et je pense, et je l'ai dit aussi, l'onction des malades, mais aussi les confessions. On a donné le sacrement de pénitence en abondance, on va dire, parce que on est là à Lourdes comme pour une grande retraite, et une retraite spirituelle. Bien, c'est cette retraite spirituelle que je viens de vivre avec le diocèse de Saint-Étienne et au-delà, puisqu'il y avait aussi de nombreux autres diocèses, et nous avons été très heureux d'être ensemble, tout simplement.
Vous êtes allé donc dans les départements d'outre-mer.
Oui.
Quelle est la différence? Vous avez découvert une autre église là-bas?
Oui, une église vivante et jeune. Que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou même à Wallis et Futuna, où j'étais au début de l'année pour prêcher la retraite, et en pensant à La Réunion, en pensant à Martinique, Guadeloupe, Guyane, c'est-à-dire c'est la richesse aussi de ces églises que j'ai eu la grâce de découvrir comme prêtre et ensuite comme évêque, et en donnant les échos de ces églises, parce qu'en plus ils sont français, donc ils viennent régulièrement en France. Et beaucoup aiment à venir à Lourdes. Je pense aux Antillais qui viennent, même individuellement. Je reçois des témoignages, je veux dire, presque chaque semaine de fidèles Antillais qui me disent « On est venu à Lourdes » et ils sont heureux de venir ici pour prier avec le peuple de Dieu. Je crois que la grâce de Lourdes, c'est cette universalité. Mmh. Universalité, puisque le message est parti de là, de cette grotte, il y a 160 ans. Eh bien, ce message, il a été aussi pour l'Église universelle, puisque c'est le monde entier. Je suis très frappé aussi de voir beaucoup de pèlerins qui viennent. On avait le fameux pèlerinage du HCBT, c'est-à-dire avec les les anglophones, et on m'a expliqué que c'est pour les enfants handicapés.
Oui.
Ils font ça d'une manière presque familiale. Et donc, c'est aussi tout ce qui se passe à Lourdes depuis un siècle et demi, et qui est le message tout simplement de l'Évangile annoncé par la Vierge Marie à Bernadette. Ce qui me fascine aussi, c'est une Vierge, et là, Notre-Dame qui dit peu de choses, quelques phrases, et en particulier le 25 mars 1858, « Je suis l'Immaculée Conception ». Alors, et quand la petite Bernadette donc a entendu ce message, elle ne comprenait même pas ce message qui lui était transmis, mais l'abbé Peyramal, lui, curé de Lourdes à l'époque, il a compris que cette fille de Bernadette, elle n'avait pas inventé ce message, elle ne le comprenait pas, et c'est d'ailleurs ce qui est inscrit en dessous de la statue.
Ouais.
Et c'est inscrit dans le patois, puisque que soit Immaculata Conception, je suis l'Immaculée Conception, le dogme venait d'être proclamé en 1854, et 4 années plus tard, la Vierge Marie vient en quelque sorte répondre. Puis alors, il y a un aspect aussi à Lourdes, dont je parle aussi quand on me demande de dire ce qu'est Lourdes, c'est une Vierge au sourire. Elle sourit, y compris lorsque Bernadette lui demande, viens, lui a eu une feuille de papier, une plume, donnez, écrivez-moi votre nom. Et c'est au mois de février, et il a fallu attendre le 25 mars, c'est-à-dire quelques semaines plus tard. Et le lien qu'il y a, et qui a été étudié d'une manière très précise, je pense à Monseigneur Jacques Perrier, qui connaît bien le message, qui a été évêque pendant 15 ans de ce diocèse, et qui a beaucoup écrit, qui a beaucoup réfléchi, pour montrer que c'est le carême de l'an 1858 qui a conduit l'abbé Peyramal, il cherchait un prédicateur, il n'y avait pas de prédicateur pour sa paroisse, et bien il a une la Sainte Vierge qui a prêché en quelque sorte, qui a donné les messages à Bernadette, qui les a répercutés, puis Bernadette qui a dit, je ne suis pas chargé de vous le faire croire, mais je suis chargé de vous le dire.
Eh oui.
C'est aussi un lieu d'évangélisation unique, par le fait de ces apparitions. Alors, et par le fait des pèlerins qui sont venus par millions depuis les apparitions.
Alors Lourdes change de visage à chaque pèlerinage. Vous avez parlé d'Achipiti, avec les Anglais qui viennent avec des tenues excentriques pour accompagner les enfants malades. On parle du pèlerinage des militaires, où là c'est encore un autre visage. On parle des anciens combattants de Maroc, dont vous avez présidé.
À plusieurs reprises, puisque j'ai découvert par le père Régis Marie de la Tessonnière, qui est connu ici, il m'a dit, ce serait bien si tu acceptais de venir présider. Mais j'ai dit, mais je suis en Guadeloupe, c'était en 2016, et je suis venu, et j'ai été fasciné par ces anciens d'Algérie, qui, à la suite d'ailleurs de ce qui s'était passé après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire les pèlerinages des prisonniers ou les pèlerinages des anciens combattants, qui sont venus pendant 30 ans, et à partir des années 1980, on a créé ce pèlerinage avec des milliers de pèlerins qui avaient le souvenir de leur temps en Algérie, ça a été une période très très difficile dans les années 1960, et qui se sont retrouvés ici, et qui se sont même retrouvés pour certains. Et alors avec ce déploiement, on va dire, de drapeaux, donc d'anciens combattants, mais de retrouvailles, et ce pèlerinage qui, comme vous venez de le dire, c'est-à-dire continue le pèlerinage dit des vétérans. Et je pense en particulier aussi comme ancien évêque de Pontoise, à la joie que nous avions de venir tous les 2 ans avec les adolescents pour le pèlerinage du fraternel, ah oui, qui aura lieu l'année prochaine, je crois. Et c'est une initiative heureuse qui a été lancée en 1908 par un prêtre de Paris qui a emmené quelques garçons, et ça s'est développé au fil des années pour aboutir à ce rendez-vous qui est un rendez-vous joyeux et heureux avec les jeunes. Je pense aussi au pèlerinage militaire international qui a lieu chaque année et qui regroupe là des militaires de tout pays. C'est unique au monde,
ouais,
et on y pense en particulier, ouais, en ce temps, ouais, terrible que nous vivons, c'est-à-dire en ce temps de guerre, et dans l'espérance et dans la prière pour la paix.
Vous qui avez connu Lourdes sur différents sujets, aspects, vous êtes venu régulièrement en tant qu'évêque, bien sûr, à la Conférence des évêques de France, vous avez accompagné des pèlerinages, vous avez accompagné vos diocèses. Après le Covid, on a eu une grande baisse.
Oui.
Ça redémarre. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui ne connaissait pas Lourdes et vous dire venez à Lourdes? Qu'est-ce que vous pourriez lui dire pour le convaincre?
Venez, tout simplement. Venez passer, même ne serait-ce qu'une heure. Vous venez à la grotte. Vous voyez là le recueillement le plus complet. Et puis si vous avez la possibilité de participer à un office, c'est encore mieux. Et ensuite, vous venez un jour et vous reviendrez avec un pèlerinage. Parce que le pèlerinage, il y a tout un ensemble, parce qu'on le vit justement avec d'autres et puis on est accompagné. Et c'est ça qui est très beau, parce que vous avez évoqué les années difficiles 2020-2021 et au-delà, et maintenant, et c'est le retour des pèlerins et qui reviennent en diocèse pour tous les diocèses de France, et je pense aussi aux Italiens qui sont très, très présents, et puis Monseigneur Jean-Marc Mica invite à sa table chaque semaine les évêques. On s'est retrouvé avec des évêques d'Écosse et d'Italie, et on vit au fond ce qui est aussi la catholicité, c'est-à-dire l'universalité et la joie de se savoir aimé par Dieu et d'avoir le sourire de la Vierge Marie pour chacune et chacun d'entre nous.
Merci beaucoup, Monseigneur Jean-Yves Rioqueux. Vous êtes l'évêque émérite donc de Guadeloupe et de Pontoise. Merci d'être venu jusqu'à nous. Bon vent à vous. Et puis, on espère vous retrouver très, très rapidement à ces micros. Et puis, on va saluer, bien sûr, tous les gens de Radio Massabielle si nous écoutent.
Merci.
Radio Présence à Argelès-Gazost, 91.9.
Allez, on poursuit avec l'information. On retrouve Jenny Lee Tichib qui nous présente le Flash. Elle est étudiante à l'école de journalisme. Bonjour.
Un château abandonné est classé monument historique à Saint-Clair-de-Rivière, réhabilité en 19 appartements. Un projet porté par Bouygues Immobilier à 3 millions d'euros. La fin du chantier est attendue pour 2029 avec des biens allant du T1 au T3. Les éléments d'origine sont conservés comme les cheminées et les escaliers. Le ministre de l'Industrie, Sébastien Martin, propose une hausse de 20% du prix de rachat de l'électricité produite par l'usine, répondant à la demande urgente de Carole Delga. Ce geste vise à combler une partie des pertes financières menaçant l'entreprise de redressement judiciaire. La région Occitanie se dit prête à aider, mais la décision finale appartient désormais aux actionnaires pour éviter la fermeture.
Merci beaucoup. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On retrouvera l'actualité. Cette fois-ci, ce sera à partir de 13h vers la rédaction française de Radio Vatican. Nous allons retrouver tout de suite le magazine De Passage à Lourdes proposé par Mathias Terrier.
Présence.
De Passage à Lourdes proposé par Mathias Terrier.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous enregistrons cette émission à l'OCH, Office chrétien des handicapés, qui se trouve au cœur même du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes et qui était un beau lieu à l'entrée Saint-Michel du sanctuaire et qui permet de faire valoir un certain nombre de magnifiques témoignages, d'accueillir de façon inconditionnelle des personnes en situation de handicap pour leur faire découvrir parfois le message de Lourdes quand c'est demandé ainsi. Et nous sommes reçus, j'ai envie de vous dire, parce que c'est chez vous ici, le Père Jean-Claude Lemaître nous reçoit en ces lieux où il vient témoigner depuis tant d'années. Bonjour Père.
Oui, bonjour.
Merci de nous recevoir. J'aurais dû dire ça ainsi parce que ça fait 30 ans que vous venez à l'OCH, ici dans ce sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes.
Alors oui, ça fera 30 ans l'an prochain, en 2027, mais jusqu'à présent j'étais venu plus comme prêtre, accompagnateur d'équipe ou autre. C'est après année, cette semaine, où je suis le bénévole comme prêtre ici même. Quoi.
Vous êtes curé de paroisse dans le diocèse de Rennes, vous êtes porteur d'un handicap de naissance. On va essayer de raconter un peu votre histoire. Vous avez été ordonné avec un handicap, je crois que c'est assez rare dans l'Église de France. Vous nous parlerez aussi de votre sacerdoce, de votre vocation de prêtre. Comment vous témoignez de votre foi avec aussi cette difficulté physique que vous vivez depuis votre naissance. Mais j'ai envie de vous poser une toute première question qui est en lien avec Lourdes. En quoi ce message de Lourdes vous rejoint-il, vous, à titre personnel? Au cours de ces 18 apparitions, la petite Bernadette, en 1858, reçoit des messages tout simples de la Vierge Marie, la Mère de Dieu. En quoi ils vous rejoignent, ces messages?
Ces 18 apparitions me rejoignent en quelque sorte, puisque Bernadette de Lourdes, Sainte Bernadette, elle-même a été malade durant son existence. Et donc, elle rejoint le peuple des personnes malades et handicapées, dont je fais partie, quoi. Et avec ces fragilités que la Vierge Marie, avec le Seigneur Jésus, l'appelle à rayonner de sa foi au cours de ses apparitions, et comment elle a été forte devant les juges et autres, tous ceux qui l'ont cassé, sali, et puis comment elle a pu rayonner après coup, je trouve ça pas rien, quoi, qu'elle soit porteuse de ce monde des personnes handicapées et malades de par sa propre vie.
Donc ce que vous nous dites, Père Jean-Claude, c'est que la Vierge Marie, Mère de Dieu, s'adresse à une pauvresse et qui est souffreteuse.
Oui, et puis ça vous touche. C'est une femme, la Vierge Marie, qui se met à la hauteur de Bernadette. Elle a le même âge qu'elle. Elle descend à un moment donné du lieu d'apparition pour vraiment se mettre à la hauteur d'eux. Et là, il y a un acte pour moi profond d'incarnation, de rejoindre les personnes comme elles sont et dans leur contexte de vie, quoi. Ce qui n'est quand même pas rien à l'époque où, en plus, Bernadette connaissait des soucis scolaires, des soucis familiaux. Elle était à Bartrès avant les apparitions, à l'arrivée de sa nourrice. Une famille quand même compliquée au niveau pauvreté et autres. Je trouve que l'itinéraire humain et spirituel de Bernadette est remarquable pour moi et m'encourage à être dynamisé.
La Vierge Marie dit, au cours d'une apparition à Bernadette, dit notamment: je ne vous promets pas le bonheur de ce monde, mais de l'autre. Si je puis me permettre, Père Jean-Claude Lemaître, vous, le bonheur, ça ne vous était pas promis comme ça, comme une évidence, parce que vous naissez avec un handicap lourd, important, vous êtes infirme moteur cérébral. Cette phrase, je ne vous promets pas le bonheur de ce monde, mais de l'autre,
alors,
vous la recevez comment?
3 ans après mon ordination, en 1992, il y a une vidéo qui a été faite sur ma propre histoire humaine et spirituelle de jeune prêtre. À l'époque, j'avais quand même 29 ans, et intitulée Le handicap de point à la ligne, prison ou tremplin. Et j'ai fait le choix de prendre toute ma vie, y compris, pas que, mais mon handicap visible, parce que je sais les handicaps cachés, qui ne se voient pas de caractère ou autre, des limites, hein. Eh bien, j'ai pris mon handicap comme un chemin de tremplin vers les autres et vers Dieu, et pour aussi être heureux avec mon handicap et non pas malgré mon handicap, quoi. Et c'est cette découverte-là qui m'a beaucoup impressionné dans ma foi chrétienne, de ne pas me limiter et prendre mon handicap, entre autres, comme une prison, quoi. Et le fait que la Vierge Marie dise à Bernadette qu'elle ne lui promet pas d'être heureuse en ce monde, parce qu'elle était marquée par un contexte aussi de souffrance. Moi aussi, j'étais marqué par des souffrances durant mon itinéraire de vie. Mais est-ce que nous pouvons aussi, moi le premier, humblement, prendre ces mêmes souffrances, ces échecs, ces galères physiques et tout ce qui en sort comme conséquences concrètes dans ma vie, comme des chemins après coup de croissance humaine et spirituelle, quoi. Et je pense que Bernadette, tout en ayant entendu cette phrase-là, ne s'est pas uniquement contentée de cette même phrase-là, qu'on voit son rayonnement jusqu'au bout comme religieuse, quoi. À Nevers.
On va voir au cours de cet entretien, Père Jean-Claude, comment vous avez pu dépasser beaucoup d'interdits qui vous étaient envoyés comme des oukases. Vous ne pourrez jamais être prêtre, vous ne pourrez jamais être curé, vous ne pourrez jamais avoir votre appartement, vous ne pourrez jamais avoir votre voiture, par exemple. On va voir tout ça au cours de ce récit que vous nous ferez dans cet entretien. Mais continuons sur ce message de Lourdes. Vous, la promesse du bonheur, je ne vous promets pas le bonheur de ce monde, mais de l'autre. Ça signifie quoi? C'est le regard qu'on porte sur la vie, sur l'horizon, sur l'horizon bouché ou qui s'ouvre?
C'est vrai que mon histoire fait que je suis un homme, un croyant et un prêtre à la fois positif et réaliste, quoi. Et je suis très marqué par la positivité de la vie sans être pour autant naïf, hein. Mais ceci étant dit, positif et réaliste, c'est aussi accueillir la vie des gens comme elle est, entre galère et capacité et fragilité. Et en fait, par rapport à ce chemin de bonheur dont vous me parlez, c'est la dimension de la foi de type eschatologique, à savoir le bonheur déjà là et à venir dans le ciel. Et cette dimension eschatologique, elle est importante puisque c'est une tension entre l'aujourd'hui et demain.
Vous parliez de galère. On va évidemment voir combien vous êtes rayonnant et que votre vie en témoigne. Mais des galères, vous en avez vécu beaucoup quand même, père, si je puis me permettre. La première galère, c'est sans doute de naître avec des très grandes difficultés physiques. Jamais vous n'avez pensé, mais qu'ai-je fait au bon Dieu pour avoir ça ?
Alors, de temps en temps, j'ai interviewé le bon Dieu en lui disant « mais tu t'exagères et tout ça ». Mais ceci étant dit, je ne me suis jamais, encore une fois, enfermé dans mon handicap comme une prison. Il y a eu une période plus difficile, à l'âge de 13-14 ans, où j'étais un peu en crise d'adolescence. Et puis en fait, à 14 ans, le Seigneur m'a fait rebondir et m'engager en église, dans différents lieux d'église. Hein. J'ai découvert le renouveau charismatique, le mouvement eucharistique des jeunes, la fraternité chrétienne des personnes handicapées, puis Lourdes. Lourdes aussi, parce qu'il y a eu, beaucoup de gens qui ont témoigné de Lourdes, et 4 ans après, je suis venu pour la première fois à Lourdes. J'avais tout juste 18 ans passé l'année de mon bac, quoi. Hein. Et c'était un revirement énorme, alors que j'étais venu une première fois à l'âge de 4 ans, et 14 ans après, je suis revenu, et je me suis dit, c'était juste quelques mois avant de rentrer à l'hôpital pour rentrer après au séminaire l'année suivante, en 82-83, et j'étais quand même bousculé par ce revirement, alors que j'étais en pleine crise psychologique, spirituelle, en disant, mais c'est, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi. Et à 13-14 ans, quand on est adolescent, on se pose quand même plein de questions les uns les autres, quoi. Comme les jeunes d'aujourd'hui également.
Sans vouloir trop insister, tout de même, physiquement, bon, vous avez des difficultés, vous avez pu marcher à une époque, vous ne marchez plus, vous êtes dans un fauteuil électrique.
Je vais répondre à votre question par rapport aux galères, quoi.
Oui.
Les galères, c'était 6 ans d'hôpital à Paris, de l'âge de 90 ans. Puis ça a été aussi, effectivement, l'abandon de la marche en 2007, où même le curé Mondet me dit, mais Je t'ai pas invité, c'était pas en contrat, tu deviens en fauteuil roulant électrique. Sur le coup, j'ai été un peu blessé, mais je lui ai dit, ben, c'est comme ça, puis après il a accepté. Et le fait de passer d'une liberté de conduite en voiture où je pouvais aller partout à une dépendance autre, eh bien, c'est tout un chemin d'abandon de capacité pour en trouver d'autres, puisque la même année, j'ai découvert une intériorité insoupçonnée en moi. Comme si j'étais dans un garage de voiture avec plusieurs sous-sols intérieurs, quoi. Et comment rebondir à chaque fois, c'est la grosse question, quoi.
Les murs aussi, c'était d'apprendre à parler correctement, c'était d'apprendre des choses qui peuvent paraître à tout un chacun simples, accessibles, et pour lesquelles vous, ça a été un combat.
Ben, à l'hôpital, c'est vrai que je me rappellerai toujours d'un exemple parmi d'autres. J'étais des après-midi entiers avec un appareil allant des pieds jusqu'aux hanches, j'étais bloqué des genoux. C'était quand même la galère, je souffrais tout ça, mais pour mon bien. J'en ai bénéficié après. Les années d'orthophonie pour apprendre à parler, la patience qu'il a fallu, y compris auprès des professionnels paramédicaux, quoi. Et tout cela, j'en bénéficie aujourd'hui, quoi. C'était un chemin difficile de patience, d'apprentissage, d'autant plus que j'étais très loin de ma famille. Je rentrais pendant 6 ans qu'aux grandes vacances d'été et aux vacances de Noël. Tout le reste du temps, j'étais tout seul, quoi. Hors famille.
Vous avez des frères et sœurs, votre maman est toujours vivante, hein, et elle a essayé, elle, d'accompagner ces réalités
elle
que vous viviez.
Elle était très présente, hein. Elle m'envoyait des colis, elle m'envoyait du courrier, elle venait de temps en temps me voir, elle venait me chercher, et aujourd'hui elle a des problèmes de dos parce qu'elle m'a porté sur son dos. À l'époque, il n'y avait pas tous l'accompagnement PMR dans les gares.
J'aimerais que maintenant nous parlions de votre vocation. Vous nous dites, juste avant cette émission, cet enregistrement, j'ai eu la vocation à 4 ans. J'ai envie de vous dire, mon père, mon œil, enfin, pardon, mais comment cela se peut-il ?
Ben, écoutez, maman m'a dit que lorsque je revenais de la messe à Pleurtuis, près de Saint-Malo, tout petit avant l'âge de 4 ans, je refaisais la messe sur une table. Je refaisais les actes du prêtre avec le pain, le vin.
Vous mimiez le prêtre ?
Ouais. Et j'ai senti un premier appel à l'âge de 4 ans. Et ce qui m'a le plus impressionné, c'est en plein lieu d'incarnation, auprès de mes frères et sœurs handicapés, fragilisés, quoi. À l'hôpital à Paris, quoi. Et je me suis dit, est-ce que ça vient de moi ? Est-ce que ça vient de toi, Seigneur ? Je ne sais pas, on verra. Et au jour d'aujourd'hui, bon, je suis très marqué par une certaine intelligence intuitive, comme un don du Seigneur que je vis ces temps-ci encore plus. Et l'intuition, c'est quoi ? C'est voir s'il y a du fruit porté. Et s'il y a du fruit porté, ça veut dire que ça vient pas de moi, ça vient de toi, Seigneur. Et s'il n'y a pas de fruit développé ou porté, ça vient que de moi.
Si je puis me permettre, à nouveau, cohabite en vous l'inattendu de Dieu. D'un côté, un haut potentiel intellectuel, de l'autre côté, un handicap lourd, une vocation très très précoce. Enfin, on se dit, quel inattendu!
Absolument. Et je pense que je crois de plus en plus à ce Dieu qu'on appelle le Dieu des surprises, sur lequel je n'ai aucune prise.
Et donc vous lâchez prise, vous faites confiance?
Oui, parce que je suis très marqué par la spiritualité de l'abandon de Charles Foucault, et en fait de Saint Charles Foucault aujourd'hui. Et la spiritualité de l'abandon, c'est dire au Seigneur, c'est toi qui guides ma vie, je t'abandonne ma vie, et quoi qu'il arrive, je sais que tu es avec moi.
Nous allons nous arrêter quelques instants, si vous le voulez bien, Père Jean-Claude Lemaître, et juste après, nous continuons cet échange avec vous pour parler justement de votre vie, de votre témoignage, de votre paroisse aujourd'hui, puisque vous êtes curé de paroisse, et on va voir que la mobilisation est magnifique autour de vous, et dans cette paroisse, il se passe beaucoup de choses, et vous nous parlerez bien entendu à nouveau du message de Lourdes.
Présence de passage à Lourdes. Proposé par Mathias Terrier.
Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jean-Claude Lemaître, Père Jean-Claude Lemaître. Vous êtes curé au cœur de la ville de Rennes et vous êtes prêtre depuis 1989. Il se trouve que vous êtes né avec un handicap important. Vous êtes infirme moteur cérébral et je crois qu'il n'existe pas beaucoup de prêtres qui ont été ordonnés avec un handicap comme le vôtre. Dans le clergé français, je crois que vous êtes même unique. Et votre rayonnement peut-être tient aussi au fait que vous avez développé une sacrée résilience. D'ailleurs, on va le voir en racontant encore des éléments de votre vie. Mais là, j'ai envie de vous interroger sur ce que vous vivez comme curé de paroisse depuis 2 ans et demi maintenant. Première petite question qui est peut-être un peu provocante, mais comment votre évêque n'a-t-il pas pensé à vous demander d'être curé de paroisse avant?
Quand j'ai été prêtre quelques jours avant, le supérieur de l'époque qui lui-même était évêque auxiliaire de Reims, à une époque qui est revenu après sur Reims depuis quelques temps, m'a dit: Jean-Claude, tu vivras plein d'activités missionnaires comme prêtre dans le diocèse de Reims, puisque tu vas être prêtre sous peu, mais jamais tu seras curé. Et en fait, j'ai vécu une première expérience en paroisse, là où je suis, pendant 9 ans comme vicaire. Je suis parti de cette paroisse-là, alors que j'y étais depuis 2011 en 2020, croyant jamais revenir comme tout prêtre. Hein. Et 3 ans après, je suis revenu comme curé de paroisse, puisqu'entre-temps, il y a eu 2 prêtres qui sont passés qui n'étaient pas en accord sans faire de commentaires là-dessus, avec la paroisse et l'historique de la paroisse et la sensibilité de la paroisse. Et des laïcs qui me connaissaient bien m'ont fait appel pour que je puisse revenir comme curé. Il y a eu tout un chemin qui a été réalisé pour faire en sorte que je puisse, avec mon handicap, revenir comme curé, d'autant plus que c'est une paroisse qui est très aménagée pour les personnes à mobilité réduite comme moi, y compris les presbytères.
Et quelle mobilisation dans cette paroisse, c'est assez impressionnant parce qu'il y a beaucoup de bénévolat, il y a énormément de vie paroissiale très diversifiée, avec des groupes très nombreux, qui vivent une spiritualité, pour les uns très différente des autres, mais tout de même, tous se rattachent à cette paroisse.
Alors, ce qui m'a impressionné, c'est que j'étais 9 ans quand même comme vicaire avant, quoi, de revenir 3 ans après, en 2023, précisément septembre 2023, et c'est le passage comme vicaire d'une vision paroissiale partielle à une vision paroissiale globale, quoi. Et j'ai redécouvert, ou vraiment découvert, concrètement à la paroisse Saint-Augustin de Rennes, autrement comme curé, et en me disant, mais c'est l'expression en outre, quoi. Hein. T'en es prêtre pour cela, pour cela, pour cela, mais en outre, tu découvres tout ce que tu as comme charge paroissiale, quoi. Et la DRH du diocèse de Rennes m'a dit l'année suivante, en 2024, Jean-Claude, tu es un véritable chef d'entreprise, quoi. Et je ne m'étais pas du tout préparé. Donc j'ai dû travailler la dimension du chef d'entreprise aussi au niveau de livres, comme tel, quoi.
Oui, pour gérer des mètres carrés, pour gérer des personnes, des espaces.
L'élément humain aussi, quoi.
Oui, des humains. Et alors, journée du Père Jean-Claude Lemaître, comment elle s'organise? Parce que vous déplacez comment? Vous vous organisez comment?
Alors, au niveau déplacement, il y a un service rennais, et sur Rennes Métropole, qui s'appelle Andy Star, qui a donc cette année, si je ne m'abuse, 50 ans, et qui a été créé lui-même par une personne handicapée, tétraplégique, et donc qui permet de faire en sorte que les personnes handicapées et âgés de Rennes et Métropole puissent se déplacer. Il y a quelque chose comme 1750 adhérents usagers. Et je fais partie de ce service-là depuis pratiquement 20 ans. Ça fait 19 ans que j'y suis. Et pour moi, c'est vraiment un prolongement essentiel de ma mission au niveau des déplacements sur Rennes et ailleurs. Et quand je vais ailleurs, ben, il y a le train ou la voiture avec des amis qui m'emmènent en dehors de Rennes et Métropole. Mais sur Rennes Métropole, pour moi, je ne peux pas me passer sur ce service-là. Et je suis très marqué puisque je suis un des rares usagers qui envoie 15 jours avant sa commande de transport en Distar. Par exemple, bien, aujourd'hui est parti ce jour.
Oui, la commande de vos besoins
pendant 15 jours.
En déplacement pour les, ouais, les
alors
jours.
Alors que je suis parti de chez moi et j'ai pu la programmer. Quoi. Donc ça me demande une anticipation énorme, rien qu'au niveau des transports, tout le reste de ma vie depuis que je suis curé de paroisse. Quoi. Et donc, ceci étant dit, je pense que ma vie a beaucoup changé depuis que je suis curé de paroisse.
Dans quel sens elle a changé ?
Bah déjà au niveau organisation, quoi. Parce que j'habite un appartement et je suis en même temps responsable d'un presbytère et d'une paroisse, quoi.
Il y a un vicaire, il y a des diacres.
Alors, il y a un vicaire qui est sur place. Il y a deux autres prêtres d'une paroisse voisine qui sont sur place depuis octobre dernier, puisque leur presbytère et leur maison paroissiale sont en travaux, la ville de Cesson-Sévigné. Donc, il y a trois prêtres qui cohabitent ensemble, donc, au presbytère depuis octobre dernier jusqu'en. Sans doute au moins en octobre prochain. Et donc, il y a aussi la gestion liée à la secrétaire. Il y a une secrétaire à mi-temps. Il y a une femme de ménage. Il y a une femme qui fait aussi la cuisine. Et à côté, 140 bénévoles qui transitent avec un excellent groupe donc, du conseil pastoral que je retrouve une fois par mois. Et de l'autre côté, il y a un excellent groupe qui gère aussi tout ce qui est matériel, financier et l'organisation concrète de la paroisse, quoi. Puisque nous avons la chance d'avoir une quinzaine de salles sous l'église que nous louons, avec concerts, groupes et autres qui passent. Donc c'est énorme.
Aumônerie d'étudiants au sein de la paroisse, hôpital psychiatrique, donc des réalités très très diverses.
Alors, effectivement, à l'hôpital psychiatrique, nous ne sommes pas liés à l'aumônerie comme telle, mais il y a des gens qui animent les équipes liturgiques qui vont animer et préparer des célébrations à l'hôpital psychiatrique. Et l'an dernier, donc en 2025, j'ai été trois fois comme prêtre célébrant à l'EHPAD de l'hôpital psychiatrique, et j'ai découvert encore plus la réalité du monde âgé, de gens malades. Quoi. Et j'ai retrouvé toutes les personnes que je connaissais il y a longtemps à Saint-Malo, qui étaient donc dans ce service-là, et dont la femme valide accompagnait son mari comme aidante conjugale. Je les ai retrouvés là, et c'était impressionnant quand on voit en pleine célébration des gens qui crient. Quoi. Et quand je donnais le sacrement des malades à ces personnes-là, il a fallu que ce soit la personne elle-même aumônière, laïque, qui donne son sacrement, tellement je ne pouvais pas les approcher, tellement certains se débattaient. Quoi.
Vous, votre vie de sacerdoce, votre sacerdoce tel que vous l'incarnez, qu'est-ce que vous en diriez avec ces années de recul, puisque vous avez 63 ans, vous avez été ordonné en 1989, ça vous donne aussi une expérience, puisque vous avez eu beaucoup d'expériences en mission diverses, auprès de publics très divers. Qu'est-ce que vous en diriez avec tout ce recul aujourd'hui du sacerdoce tel que vous l'incarnez ? Avec votre singularité, j'entends.
Ouais, je suis très marqué dans mon expérience de croyant d'abord en Jésus par l'incarnation. L'importance d'être capable d'écouter la personne que nous rencontrons et le groupe que nous rencontrons, et respecter la personne dans son histoire, dans son contexte de vie du moment, avec ses soucis tant psychologiques que moraux, financiers et autres, et toutes ses capacités aussi, quoi. Et je me dis, par exemple, quand à un moment donné vous parliez de mes journées à la paroisse, le matin j'accompagne et j'accueille pas mal de personnes au niveau d'accompagnement spirituel. Imaginez-vous, par mois j'accompagne 25 personnes au niveau spirituel, quoi, et sans parler des gens qui viennent ponctuellement. Donc finalement j'ai fait le choix, puisque je suis toujours en appartement à côté de mon presbytère, de que le matin soit plus un lieu d'accompagnement, et mon bureau est chez moi. Dans mon appartement.
Donc vous avez, vous, au cœur de votre mission, l'écoute,
oui,
et encore l'écoute.
Et l'accueil.
Et l'accueil.
Ouais, et c'est impressionnant parce qu'il y a aussi l'organisation, la mise en œuvre liturgique et tout cela, et la gestion des groupes, les préparations, les comptes rendus, et heureusement qu'il y a plein de laïcs qui s'y mettent et qui sont compétents.
Nous n'avons pas abordé beaucoup d'aspects de votre personnalité, Père Jean-Claude Lemaître, parce que c'est pas toujours possible au cours d'une émission toujours trop courte, mais vous êtes clown, m'a-t-on dit. Donc l'humour, il y a l'espérance dans votre vie, on l'a compris, la charité, la foi et l'humour. La place du clown, parlez-nous de cette dimension-là.
Je pense que mon clown existe depuis très longtemps, en fait, et je l'ai... Il y a une sorte de révélation qui s'est passée le week-end du 14 juillet 2022. Je sortais juste d'une épreuve physique puisque je suis tombé en septembre-octobre 2021 et j'étais juste réparé physiquement que j'ai voulu vivre cette session-là extraordinaire pour moi où il y a une saine révélation humaine et spirituelle qui s'est passée, d'une meilleure découverte de moi-même, de mon identité profonde d'homme, de croyant. Par le biais du clown.
Donc vous voulez faire rire les autres.
C'est être clown aussi croyant, c'est une spécificité. Puis être clown et personne handicapée et prêtre, c'est quand même pas banal.
C'est pas banal.
Et le rire me vient comme ça, et même au cours d'obsèques, parfois, ça m'arrive de faire rire les gens.
Mais vous ne mettez pas le nez rouge en toutes circonstances.
Non, puis chausser le nez rouge, comme on le dit, c'est pas facile parce que, surtout devant des proches, que des gens qu'on connaît bien, et qui peuvent nous enfermer dans ce que nous vivons, dans ce que nous sommes, de ce qu'ils connaissent bien de nous. Et moi, je préfère intervenir devant des groupes que je connais pas. Comme clown, et m'habille en clown avec le nez rouge entre autres, déjà les vêtements, mais c'est pas facile de faire le passage, quoi. Parce que c'est la même identité, mais vécue autrement.
Bon, il faudrait que vous écriviez un livre, Père Jean-Claude Lemaître.
J'y suis.
Et vous y êtes ?
Vous y êtes, et en fait, ce que j'ai fait comme choix, c'est au bout de 40 ans d'ordination en 2029, de prendre un an d'année sabbatique comme prêtre pour finir d'écrire ce livre-là.
Oui, parce que vous avez à témoigner, c'est sûr et certain. Nous nous arrêtons là. Un mot pour terminer sur ce lieu Lourdes qui est vraiment très cher à votre cœur. Hein. Ça fait 60 ans que vous y venez. Vous encouragez, j'imagine, tous ceux qui nous écoutent à venir vivre de la grâce de Lourdes qui sera forcément l'inattendu de Dieu.
Lourdes, c'est un peu, pour moi, notre pèlerinage de vie. C'est à la fois un pèlerinage extérieur, mais intérieur du cœur. Et comment vivre... notre vie sans passer par l'autre, j'ai du mal, moi, à imaginer cela. Il y a des gens qui ne connaissent pas l'autre comme français, même comme pyrénéen. Et je me dis, l'autre, pour moi, ça a été une source de révélation, une source ben, normale. Il y a la source qui coule devant la grotte, au fond de la grotte. Mais pour moi, je crois que ouais, l'autre a été, de l'âge de 4 ans jusqu'à 18 ans et après, un véritable révélateur humain, spirituel et fraternel.
Merci beaucoup, Père Jean-Claude Lemaître. Donc, je rappelle que nous étions à l'OCH, l'Office chrétien des handicapés, que nous remercions pour leur accueil et que vous y êtes, vous, un peu en résidence, entre guillemets, pour justement accueillir et témoigner.
Absolument, et merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Présence de passage à Lourdes, proposé par Mathias Terrier.
Présence à Toulouse, 97.9.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Léon XIV en Algérie, le pape est depuis ce matin à Alger pour la première étape de son voyage apostolique en Afrique.